écoutez KTO Radio, il est 23h. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 17e. Ressouviens-toi, lecteur, si jamais dans les Alpes te surprit le brouillard, à travers lequel on voit ainsi que voient les taupes à travers leurs têtes, de quelle façon, lorsque les vapeurs humides et épaisses commencent à se raréfier, le soleil faiblement y pénètre, et que ton imagination soit prompte à se représenter comment je revis d'abord le soleil qui se couchait. Ainsi, réglant mes pas sur ceux de mon maître fidèle, je sortis de ce nuage et retrouvai les rayons déjà morts sur les rivages bas. Ô imaginative, qui tellement quelquefois nous sépare des choses du dehors, qu'autour de nous sonneraient mille trompettes, point ne les entendrions qui te meut si ne t'excite les sens. Te meut une lumière qui s'informe dans le ciel, ou de soi-même, ou par le vouloir de celui qui en bas l'envoie. De l'impie dont la forme se changea en celle de l'oiseau, qui a chanté le plus se délecte, j'eus la vision interne et mon esprit en soi se replia si profondément qu'aucune chose du dehors n'y trouvait d'accès. Puis me tomba dans la haute fantaisie un crucifié superbe et farouche, et tel il se mourait. Près de lui était le grand Assuérus, son épouse Esther, et le juste Mardochée, également intègre dans le dire et dans le faire. Et cette image s'étant brisée d'elle-même, comme une bulle à laquelle manque l'eau où elle se forma, dans ma vision surgit une jeune fille, pleurant et disant « Ô reine, pourquoi par colère as-tu voulu ne plus être? Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinia, et maintenant tu l'as perdue. Elle-même suis-je, moi qui pleure, mère, ta mort avant celle d'un autre. Comme se rompt le soleil quand subitement une nouvelle lumière frappe les yeux fermés et rompu ce débat avant de mourir tout à fait, ainsi s'éteignit en moi l'imaginer, sitôt que frappa mon visage une lumière bien plus vive que celle à laquelle nous sommes accoutumés. Je me tournai pour regarder d'où elle venait, lorsqu'une voix dit « Ici l'on monte ». De toute autre pensée, elle me détourna et m'inspira un si grand désir de voir qui me parlait que rien ne l'aurait pu calmer que son objet même. Mais comme il advient devant le soleil qui éblouit notre vue et se voile de son propre éclat, ainsi ma force ici défaillait. Celui-ci est l'Esprit divin qui, sans être prié, nous indique le chemin pour aller en haut et se cache lui-même dans sa lumière. Avec nous, il fait comme l'homme fait avec soi, car qui voit le besoin et attend qu'on le prie, malignement déjà se met sur la négative. Maintenant que nos pieds obéissent à une si haute invitation, tâchons de monter avant que la nuit se fasse, après on ne le pourrait jusqu'au retour du jour. Ainsi dit mon guide, et lui et moi nous tournâmes nos pas vers un escalier, et dès que je fus sur le premier degré, je sentis près de moi comme un mouvement d'ailes, et sur ma face passer un souffle, et j'entendis « Beati Pacifici », ce qui signifie « Bienheureux les pacifiques », qui point n'ont en eux de mauvaise colère. Déjà, au-dessus de nous si élevés, étaient les derniers rayons qui précèdent la nuit, que de plusieurs côtés paraissaient les étoiles. Ô ma force, pourquoi ainsi m'abandonnes-tu ? Disais-je en moi-même, sentant que mes jambes s'affaiblissaient. Nous étions là où l'escalier cesse de monter, fixe comme le navire qui aborde la plage. J'écoutais un peu si j'entendrais quelque chose dans le nouveau cercle, Puis je me tournai vers mon maître et dis « Mon bon père, dis quelle offense expie-t-on dans le cercle où nous sommes. Si les pieds s'arrêtent, que ne s'arrête point ton discours. » Et lui à moi, « L'amour du bien séparé du devoir qui le règle ici se restaure. Ici est châtié le rameur paresseux. Mais pour que tu entendes mieux encore, écoute-moi, et tu retireras quelques bons fruits de notre retard. Mon fils, commença-t-il, ni le Créateur ni la créature jamais ne furent sans amour, ou naturel ou procédant de la raison, et tu le sais. Le naturel toujours est exempt d'erreur, mais l'autre peut errer dans le vice de l'objet, ou par trop peu de force. Tandis que vers les premiers biens il est dirigé, et que dans les seconds, il se mesure bien lui-même. Il ne peut être la cause d'un mauvais plaisir. Mais quand il se tord vers le mal, ou qu'avec plus ou avec moins d'ardeur qu'il ne doit, il court dans le bien, contre son Créateur agit la créature. De là, tu peux comprendre que l'amour en vous doit être la semence et de toute opération qui mérite une peine. Or, l'amour, ne pouvant détourner la vue du bien de son sujet, tout être est à l'abri de sa propre haine. Et parce que nul ne peut être conçu subsistant de soi et séparé du premier être, celui-ci jamais ne saurait être haï. Donc, si mes divisions sont exactes, le mal qu'on aime est le mal du prochain. Et cet amour sur votre limon naît de trois manières. Tel, en opprimant son prochain, espère l'excellence, et pour cela, seul il souhaite que de sa grandeur il soit jeté bas. Tel craint de perdre pouvoir, faveur, honneur, renommée, si un autre s'élève, et d'autant plus il s'en attriste, qu'il aime plus le contraire. Tel, d'une injure, paraît tant s'irriter qu'il devient avide de vengeance, et celui-ci, force est qu'il cherche le mal d'autrui. Cet amour triforme ici-dessous se pleure. À présent, je veux parler de celui qui court au bien d'une manière opposée à l'ordre. Chacun, confusément, conçoit un bien où l'âme se repose et le désire, et chacun s'efforce de l'atteindre. Si un lent amour vous attire vers lui, pour le voir ou pour l'acquérir, les tourments de cette corniche vous purifient, pourvu qu'ait précédé un juste repentir. Il est un autre bien qui ne rend pas l'homme heureux, il n'est point la félicité, il n'est pas la bonne essence de tout bien, ni dans son fruit, ni dans sa racine. L'amour qui trop s'y abandonne, au-dessus de nous se pleure dans trois cercles. Mais comme la raison montre qu'il est triple, point n'en parle afin que par toi-même tu cherches. Chant 18e. À son discours, avait mis fin le grand docteur, et attentivement il regardait sur mon visage si je paraissais content. Et moi, que pressais encore une nouvelle soif, je me taisais au dehors et au dedans je disais « Peut-être qu'en trop demandant, je le fatigue. » Mais ce père vrai, qui s'aperçut du timide vouloir qu'en moi je renfermais, en parlant, me donna la hardiesse de parler. D'où moi, Maître, tant s'avise ma vue dans ta lumière que je discerne clairement tout ce que montre et trace ta raison. Je te prie donc, cher doux père, de m'enseigner quel est cet amour à quoi tu réduis toute bonne opération et son contraire. Fixe sur moi, dit-il, les regards pénétrants de l'esprit. Et te sera manifeste l'erreur des aveugles qui se font guides. L'âme, créée pour aimer, se porte vers tout ce qui plaît, sitôt que le plaisir l'éveille à l'action. De ce qui existe réellement, votre puissance perceptive attire l'image, et la déploie au-dedans de vous, de sorte que l'âme se tourne vers elle, et si vers elle étant tournée, elle s'y incline, ceci est la nature que le plaisir unit à vous par un nouveau lien. Et comme le feu se meut en haut, En vertu de sa forme, qui le porte à monter là où plus il subsiste dans sa propre matière, ainsi ayant perçu, l'âme entre en désir, qui est un mouvement spirituel, et jamais ne se repose qu'elle n'ait joui de l'objet aimé. Tu peux maintenant voir combien la vérité est cachée à ceux qui affirment que tout amour est louable en soi. Il se peut que bonne en paraisse toujours la matière, mais toute empreinte n'est pas bonne, bien que la cire soit bonne. Tes paroles et mon esprit qui les suit, répondis-je, m'ont découvert l'amour, mais de cela même naissent en moi de nouveaux doutes. Car si vient du dehors ce qui détermine l'amour, et que l'âme n'est point d'autre moteur, qu'elle aille droit ou qu'elle dévie, ce n'est pas son mérite. Et lui à moi, tout ce qui s'y voit la raison, je puis te le dire, pour ce qui est au-delà, attends Béatrice. Car c'est sujet de foi. Toute forme substantielle distincte de la matière et unie avec elle a en soi une vertu spécifique, laquelle n'est sentie que par son opération et ne se manifeste que par son effet, comme la vie dans la plante par le vert feuillage. Ainsi, d'où vient l'intelligence des premières notions et le sentiment des premiers objets que l'âme appète, l'homme ne le sait, car ils sont en vous comme dans l'abeille l'instinct de faire le miel. Et ce premier désir n'a rien qui mérite louange ou blâme. Or, afin qu'à elle viennent s'unir toutes les autres, innée en vous est la vertu qui conseille et qui doit garder le seuil du consentement. Celle-ci est le principe qui vous rend capable de mériter selon qu'il accueille et choisit les bons et les mauvais amours. Ceux dont la raison a été au fond ont reconnu cette liberté innée et ils ont ainsi conservé la morale dans le monde. D'où, suppose que tout amour qui au-dedans de vous s'enflamme y naisse, nécessairement en vous est la puissance de le contenir. Par libre arbitre, Béatrice entend la noble vertu, au soin de t'en souvenir si elle t'en parle. La lune, qui avait retardé son lever presque jusqu'au milieu de la nuit, semblable à un bassin embrasé, nous faisait paraître les étoiles plus rares et à l'encontre du ciel, elle parcourait la route que le soleil enflamme, alors qu'à son déclin, ceux de Rome le voient entre les Sardes et les Corses, et cette noble ombre, par qui plus renommée est Piétola que la cité mantouane, avait déposé le fardeau dont je l'avais chargé. Pour moi, mes questions ayant reçu des réponses claires et simples, j'étais comme un homme qui, à demi endormi, rêve, mais des gens qui, derrière nous, se hâtaient, dissipèrent subitement cette somnolence, et comme jadis l'Ismène et l'Azope voyaient de nuit courir sur leur bord une foule ardente quand les Thébains avaient besoin de Bacchus, ainsi par ce que je vis de ceux qui venaient, dans ce cercle presse le pas celui qu'emporte un bon vouloir et un juste amour. Ils nous eurent bientôt joints, car en courant allait toute cette grande troupe, et devant elle deux criaient en pleurant. Marie, avec hâte, courut à la montagne, et pour subjuguer Herda, César investit Marseille et courut en Espagne. Vite, vite, que par peu d'amour point ne se perde le temps, criaient tous les autres qui suivaient. Le zèle de bien faire fait reverdir la grâce. Ô Jean, en qui maintenant une vive ferveur compense peut-être la négligence et le retard que par tiédeur vous avez mis à accomplir le bien, celui-ci qui vit, et certainement je ne vous mens pas, veut aller en haut pourvu que le soleil nous éclaire. Dites-nous donc où est le plus près passage. Ainsi parla mon guide, et l'un de ses esprits dit « Viens derrière nous, tu trouveras l'entrée ». De nous mouvoir si désireux nous sommes que nous ne pouvons nous arrêter. Ainsi, pardonne, si te paraît rudesse l'effet de la justice en nous. Je fus abbé de San Zeno de Vérone, sous l'empire du bon Barberousse, de qui, avec douleur, parle encore Milan. Est-elle a déjà un pied dans la fosse que bientôt fera pleurer ce monastère et qui s'attristera d'y avoir eu puissance, parce que son fils, difforme de tout le corps et d'âme pire, et qui mal naquit, y tient la place du vrai pasteur. Je ne sais s'il en dit plus ou s'il se tut, tant il nous avait devancés, Mais cela j'entendis, et il me plut de le retenir. Et celui qui en tout besoin m'avait secouru dit, « Tourne-toi par ici. » Et vois-en deux venir en gourmandant la paresse. Derrière tous les autres, il disait, « Moururent ceux pour qui la mer s'ouvrit, avant que le Jourdain vit ses héritiers. » Et ceux qui, jusqu'à la fin, ne supportèrent pas la fatigue avec les fils d'Anchise et se plongèrent eux-mêmes dans une vie sans gloire. Puis, quand ces ombres furent si loin de nous qu'on ne les pouvait plus voir, en moi entra un nouveau pensée duquel divers autres naquirent, et de l'un à l'autre tant j'ondoyais que dans le vague mes yeux se fermèrent et la pensée se transforma en songe. Chant 19e. Alors que la chaleur du jour, vaincue par la terre ou quelquefois par Saturne, ne peut plus attiédir le froid de la lune, quand les géomanciens voient avant l'aube leur fortune majeure surgir dans l'Orient par un chemin qui longtemps ne reste pas obscur, m'apparut en songe une femme bègue aux yeux louches, courbée sur ses jambes torses, mutilée des mains et de couleur blafarde. Je la regardais, et comme le soleil ranime les froids membres engourdis par la nuit, ainsi mon regard délia sa langue, puis en peu d'instants, la redressa tout entière et colora comme le veut l'amour son visage défait. Lorsqu'ainsi elle eut le parler libre, elle se mit à chanter de telle sorte que je n'eusse pu qu'avec peine détourner d'elle mon attention. « Je suis, chantait-elle, je suis la douce sirène qui, au milieu de la mer, égare les mariniers, tant de mouir le plaisir est grand. De sa route errante, j'attirais Ulysse à mon chant, qui s'accointe avec moi, rarement me quitte si pleinement je le satisfais. » Sa bouche ne s'était pas encore refermée quand soudain, près de moi, apparut une femme sainte, pour la confusion de celle-là. « Ô Virgile, Virgile, qui est celle-ci ? » vivement disais-je. Et lui venait, les yeux fixés seulement sur cette femme pudique, il prenait l'autre et, fendant ses vêtements, par devant il la découvrait et me montrait le ventre, la puanteur qui s'en exhalait me réveilla. Je tournai les yeux et le bon Virgile, « Trois fois au moins, dit-il, je t'ai répété, lève-toi et viens. Cherchons l'ouverture par où tu puisses entrer. » Je me levai. Déjà le jour remplissait tous les cercles du sacré mont et nous allions les reins tournés vers le soleil nouveau. Et le suivant, je portais le front comme qui l'a chargé de pensées et qui fait de soi un demi-arc de pont lorsque j'entendis « Venez, ici l'on passe. » d'un parler si doux et si affectueux que de pareil on n'en entend point dans ce séjour mortel. Ouvrant ses ailes, semblable à celle du cygne, celui qui ainsi nous avait parlé nous dirigea en haut entre les parois du rocher. Sur nous ensuite il agita les pennes, déclarant « Heureux ceux qui luguent, parce que leurs âmes seront consolées. Qu'as-tu ? Qu'à terre seulement tu regardes ?» me dit mon guide, ayant tous deux l'ange un peu au-dessus de nous. Et moi, si soucieux vais-je, à cause de la nouvelle vision qui tant m'obsède, que je ne puis cesser d'y penser. Tu as vu, dit-il, cette antique magicienne qui seule désormais au-dessus de nous se lamente. Et tu as vu comment l'homme se dégage d'elle. Que cela te suffise, et de tes talons frappe la terre. Tourne les yeux vers le leur que te montre le roi, éternel dans ses orbes immenses. Tel que le faucon, qui d'abord regarde ses pieds, se tourne ensuite au cri et s'élance par le désir de la pâture qui devant l'attire, tel devins-je, et tel aussi que se fend le rocher pour donner passage à qui monte, Allais-je jusque là où commence le circuit ? Lorsque, libre, je fus dans le cinquième cercle, j'y vis des gens qui, gisant à terre, la face en bas, pleuraient. Adaesit pavimento anima mea, ce qui signifie « Mon âme s'est attachée au pavé », je les entendais dire avec des soupirs si profonds que l'on distinguait à peine les paroles. Ô élu de Dieu, dont l'injustice et l'espérance rendent les souffrances moins dures, dirigez-nous vers les hauts degrés. Si vous venez sans avoir à craindre d'être ici gisant et voulez trouver le chemin le plus court, que votre droite soit toujours en dehors. Ainsi pria le poète, et ainsi il lui fut répondu d'un peu au-devant de nous. Et moi, par le parler, je discernais celui qui était caché, et je tournais les yeux vers mon Seigneur qui, avec un signe de contentement, m'accorda ce que demandait le regard du désir. Quand je fus maître de disposer de moi, je m'approchai de cette créature que ses paroles m'avaient fait remarquer, disant « Esprit, en qui le pleurer mûrit, ce sans quoi tu ne peux retourner à Dieu, suspends un peu pour moi ton plus grand souci. Qui fus-tu et pourquoi vos dons sont tournés en haut? Dis-moi, si tu veux que je t'obtienne quelque chose, là d'où je suis parti vivant. » Et lui à moi, « Pourquoi veut le ciel que vers lui nos dos soient tournés? Tu le sauras. Mais auparavant, sias quod ego fui successor petri, ce qui signifie « Sache que je fus successeur de Pierre. » Entre Siestri et Chiaveri descend une belle rivière, de laquelle originairement ma race tire son nom. Durant un mois et un peu plus, j'éprouvais combien pèse le grand manteau à qui veut le préserver de la fange. Paraîtrait une plume tous les autres fardeaux. Ma conversion, hélas, fut tardive. Mais quand je fus fait pasteur romain, je connus la vie menteuse. Je vis que là ne s'apaisait point le cœur et que, dans cette vie, on ne pouvait monter plus haut, ce pourquoi de celle-ci en moi s'enflamma l'amour. Jusque-là, misérable et séparé de Dieu, fut mon âme tout avare. Maintenant, comme tu vois, j'en suis ici puni. Ce qu'opère l'avarice se manifeste ici dans la position renversée des âmes qui se purifient. Et le monde n'a point de peine plus amère. Comme nos yeux, fixés sur les choses terrestres, ne se tournèrent point en haut, ainsi la justice ici les attache à terre. Et comme l'avarice éteignit en nous tout amour du bien, par quoi se perd l'opéré, ainsi la justice ici nous tient resserrés, liés et pris des pieds et des mains, et tant qu'il plaira au Seigneur juste, nous resterons étendus immobiles. Je m'étais agenouillé et je voulais parler, mais comme je commençais s'étant aperçu par Louis seulement de mon acte respectueux, « Pourquoi, dit-il, ainsi te courbes-tu ? » Et moi à lui, « Parce que m'empresse ma droite conscience à cause de votre dignité. Redresse tes jambes, élève-toi, frère, répondit-il, ne te trompe point. Comme toi et comme les autres, d'une seule puissance, je suis le serviteur. Si cette parole évangélique « Neque nubent » tu entendis jamais, bien peux-tu voir pourquoi ainsi je parle. Va maintenant. Je ne veux pas que tu t'arrêtes davantage, car ta présence gêne le pleurer avec lequel je mûris ce que tu as dit. J'ai là une nièce nommée Aladjia, bonne de soi, pourvu que par l'exemple, notre maison ne la rende pas mauvaise. Elle seule m'est restée là. »
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio.
Le Christ hier et aujourd'hui. Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
KTO Radio présente à haute voix
la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui,
la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 20e. Contre un plus fort vouloir, mal combat un autre vouloir. Ainsi, contre ce qui me plaisait pour lui plaire, je retirais de l'eau l'éponge non rassasiée. Je m'avançais, et mon guide s'avança par l'espace libre le long de la rampe, comme on va par un étroit mur crénelé, car la jante qui, par les yeux, goutte à goutte, verse le mal dont tout le monde est plein, s'approchait trop en dehors. Maudite sois-tu, antique louve, qui, plus que toutes les autres bêtes, abonde de proie pour ta faim sans fond. Ô ciel, dont on paraît croire que les mouvements changent la condition des choses d'ici-bas, quand viendra celui par lequel s'en ira celle-ci? Nous allions à pas lents et rares, et j'étais attentif aux ombres que j'entendais pitoyablement pleurer et se plaindre, lorsque, de fortune, jouit douce Marie devant nous appelée au milieu de ses pleurs, comme la femme en travail d'enfant, et ajoutée « Aussi pauvre tu fus, qu'on le peut voir par le réduit où tu déposas ton fruit saint. » J'entendis ensuite « Ô bon Fabricius, tu aimas mieux la pauvreté avec la vertu que de grandes richesses avec le vice. » Ces paroles tant me plurent que je m'avançais pour connaître l'esprit de qui elles paraissaient venir. Ils parlaient aussi de la largesse que fit Nicolas aux jeunes vierges pour conserver pur leur honneur. « Ô âme qui si bien discours, dis-moi qui tu fus, dis-je, et pourquoi seul tu renouvelles ces dignes louanges ? Tes paroles ne seront point sans récompense si je reviens accomplir le court chemin de cette vie qui vole vers son terme. » Et lui, « Je te parlerai, non pour confort que j'attende de là, mais à cause de la grâce singulière qui reluit en moi avant que tu sois mort. Je fus la racine de la mauvaise plante, qui tellement de son ombre couvre la terre chrétienne, que rarement s'y cueille un bon fruit. » Si Douai, Gand, Lille et Bruges pouvaient, prompte en serait la vengeance, et je la demande à celui qui juge tout. Je fus appelé là Hugues Capet. De moi sont nés les Philippe et les Louis, par qui nouvellement est régie la France. Je fus fils d'un boucher de Paris. Lorsque les anciens rois vinrent à manquer tous, hors un qui avait endossé la robe grise, je me trouvais ayant en main le frein du gouvernement du royaume et si puissant par de nouveaux acquêts et entouré de tant d'amis qu'à la couronne, veuve fut promue la tête de mon fils, par qui de cela commença la race exécrable. Jusqu'à ce que la grande dot de Provence eût à mon sang ôté toute pudeur, peu il valait, mais du moins il ne faisait pas de mal. Alors, par la force et le mensonge, commencèrent leurs rapines. Ensuite, pour amende, ils prirent le Pontois, la Normandie et la Gascogne. Charles vint en Italie et pour amende fit de Corradin une victime. Et au ciel renvoya Thomas pour amende. Peu après, je vois un temps où de France est attiré un nouveau Charles, pour que mieux soit connu et lui et les siens. Il en sort sans armée, seul avec la lance, avec laquelle jouta Judas, et si bien que de Florence elle ouvre le flanc. Par là, point de terre, il ne gagnera, mais péché et honte, pour lui d'autant plus pesant que plus léger lui semblera un pareil dommage. L'autre qui sortit ensuite, je le vois pris sur un navire vendre sa fille et en trafiquer comme les corsaires des autres esclaves. Ô avarice, quoi de plus peux-tu faire des miens, après qu'à toi tellement tu les as attirés que point ils n'ont souci de leur propre chair ? Pour que moindre paraisse le mal futur et le mal fait, je vois dans Alania entrer le Lys et dans son vicaire le Christ captif. Je le vois moquer une autre fois, je le vois de rechef abreuvé de vinaigre et de fiel et mis à mort entre deux voleurs vivants. Je vois le nouveau Pilate si cruel que, non assouvi encore, il porte sans rescrit ses voiles avides dans le temple. Ô mon Seigneur, quand joyeux verrai-je la vengeance cachée dont jouit en secret ta colère? Ce que je disais de cette unique épouse de l'Esprit-Saint, sur quoi pour t'enquérir tu t'es tourné vers moi, nous le redisons dans nos prières pendant que le jour dure. Mais quand vient la nuit, nos voix prennent un ton contraire. Alors nous parlons de Pygmalion, que traître et voleur et parricide fit l'insatiable désir de l'or, et de la misère de l'avare Midas, suite de l'avide demande qui doit le rendre à jamais un objet de risée. Puis chacun se rappelle l'insensé Achan, comment il déroba le butin, et il semble qu'ici encore le châtie la colère de Josué. Ensuite, nous accusons Saphira avec son mari, aux ruades que reçut Héliodore, nous applaudissons, et tout le mont roule dans l'infamie Polymnestor qui tua Polydore. Enfin, ici l'on crie, « Ô Crassus, dis-nous, puisque tu le sais, quel goût a l'or ?» L'un parle haut et l'autre bas, selon le sentiment qui nous excite à parler avec plus ou moins de véhémence. Cependant, à écouter le bien que le jour on rappelle, je n'étais pas seul. Mais là, au prêtre était une personne qui n'élevait pas la voix. Nous avions quitté cet esprit et nous tâchions de gagner du chemin autant que nos forces nous le permettaient lorsque je sentis trembler le mont comme une chose qui tombe, d'où je fus pris d'un frisson semblable à celui que saisit l'homme qu'on mène à la mort. Si fortement ne trembla pas Délos, avant que Latone y eût fait le nid où elle enfanta les deux yeux du ciel. Puis retentit de toutes parts un cri tel que le maître se tourna vers moi, disant « Ne crains rien, pendant que je te guide. » « Gloria in excelsis Deo », tous disaient, selon que je le compris, lorsque de plus près je pus entendre les cris. Nous demeurâmes immobiles et en suspens, comme les pasteurs qui les premiers ouïrent ce chant, jusqu'à ce que le tremblement ayant cessé, le chant aussi cessa. Puis nous reprîmes notre route sainte, regardant les ombres qui gisaient à terre et qui déjà étaient retournées aux pleurs accoutumées. Contre aucune ignorance qui me rendit désireux de savoir, je n'eus jamais si grand combat, si ma mémoire en cela n'erre pas, que n'était celui qu'en ma pensée il me semblait alors avoir, et à cause de la hâte, je n'osais demander, et là par moi-même je ne pouvais rien voir. Ainsi je m'en allais timide et pensif. Chant 21e. La soif naturelle qu'apaise seule l'eau qu'en grâce demanda la pauvre femme samaritaine me tourmentait. Et par la route, embarrassée, me hâtant à la suite de mon guide, j'étais ému de la juste vengeance quand voilà que, comme en Luc il est écrit que le Christ sortit du sépulcre, apparut à deux de ses disciples en voyage, nous apparut une ombre. Derrière nous, elle venait, regardant la troupe gisante à ses pieds. Nous ne l'avions point aperçue, de sorte que la première, elle parla, disant « Mes frères, que Dieu vous donne la paix !» Soudain, nous nous retournâmes, et Virgile lui rendit le salut qui convenait au sien. Puis il commença, que dans l'assemblée bienheureuse t'introduise en paix le juste juge qui me relègue dans un éternel exil. Si vous êtes, dit-elle, en continuant d'aller des ombres que Dieu ne daigne pas admettre là-haut, qui vous a ainsi conduit par cet escalier? Et mon maître, si tu regardes les signes que porte celui-ci et que l'ange a tracés, bien verras-tu qu'avec les bons il doit régner. Mais parce que celle qui jour et nuit file n'avait pas encore épuisé la quenouille que Clotho dispose et mesure pour chacun, son âme, sœur de la tienne et de la mienne, venant là-haut, n'y pouvait venir seule, ne voyant pas comme nous voyons. Ce pourquoi je fus tiré de la large gueule de l'enfer pour le guider, et je le guiderai aussi loin que le pourra mon savoir. Mais dis-nous, si tu le sais, pourquoi de telles secousses ont ébranlé le mont, et pourquoi tous ensemble ont paru jeter le même cri jusqu'à son humide pied. Ainsi demandant, il toucha tellement le but de mon désir que par l'espérance un peu apaisée fut ma soif. Celui-là commença. Point n'est-ce une chose qui trouble l'ordre de la pieuse montagne ou qui soit inaccoutumée. Elle est exempte de toute altération, de ce qu'en soi le ciel reçoit d'elle cela peut venir et non d'autre chose, car ni pluie, ni grêle, ni neige, ni rosée, ni bruine ne tombe au-dessus du court escalier des 3 degrés. Ne s'y voit aucun nuage épais ou léger, ni éclair, ni la fille de Thomas qui, là, souvent change de contrée. Nulle sèche vapeur ne monte plus haut que le sommet des 3 degrés dont je parlais ou le vicaire de Pierre à ses pieds. Peut-être plus bas tremble-t-elle un peu ou beaucoup, mais par un vent qui dans la terre se cache, je ne sais comme, ici haut, le mont ne tremble jamais. Il tremble lorsqu'une âme se sent pure, de sorte qu'elle monte, ou se meuve pour monter, et se crie la seconde. De la pureté, le seul vouloir fait preuve. L'âme tout à coup se sentant libre de changer de demeure, et de le vouloir, elle se réjouit. Auparavant, bien le voudrait, mais ne le permet pas le désir par lequel veut la divine justice qu'elle se porte vers le châtiment comme au péché elle se porta. Et moi qui, 500 ans et plus, étais gisant sous cette peine, tout à l'heure seulement j'ai senti le désir d'un séjour meilleur. Pour cela, tu as senti le tremblement et entendu les pieux esprits par tout le mont rendre gloire à ce Seigneur afin qu'il hâte leur passage là-haut. Ainsi il dit, et comme on se réjouit d'autant plus de boire que plus grande est la soif, je ne saurais dire combien il satisfit la mienne. Et le sage guide, maintenant je vois le filet où ici vous êtes pris, et comme on s'en dégage, pourquoi le tremblement et de quoi vous vous conjouissez? Qu'il te plaise maintenant que je sache qui tu fus. Pourquoi tant de siècles tu as été gisant, je l'ai compris par tes paroles. Au temps où le bon Titus, avec l'aide du souverain roi, vengea les blessures d'où sortit le sang vendu par Judas, revêtu du nom le plus durable et le plus honoré, j'étais là, célèbre, mais n'ayant pas encore la foi. Tant fut doux le souffle de ma voix, que de Toulouse à Soie m'attira Rome, où je méritais que de Myrte mes tempes fussent ornées. Là encore, on me nomme Stas, je chantais de Thèbes puis du grand Achille, mais sous la seconde charge en chemin je tombais. De mon ardeur furent la semence les étincelles de la divine flamme qui m'embrasa et à laquelle se sont allumées 1000. Je parle de l'Énéide qui me fut une mamelle et une nourrice de poésie. Sans elle je n'eusse pesé une drachme. Et pour avoir vécu là quand vivait Virgile, je consentirais que d'un soleil plus que je ne dois, fut retardée la fin de mon bannissement. Virgile, à ces paroles, vers moi se tourna, d'un visage qui, en se taisant, me disait « Tais-toi ». Mais ne peut la vertu tout ce qu'elle veut. Le rire et les pleurs suivent tellement la passion qui les excite qu'ils n'obéissent point au vouloir et moins encore chez les plus vrais. Je souris donc comme celui qui fait signe, sur quoi l'ombre se tut et me regarda aux yeux où plus se retrace l'image véritable. Que d'un si grand travail tu recueilles le fruit, dit-il. Pourquoi ton visage m'a-t-il tout à l'heure montré un éclair de rire? Je me trouve ainsi pris d'une et d'autre part, de l'une on me commande de me taire, de l'autre on me conjure de parler, d'où un soupir qui me fait comprendre. Parle, dit mon maître, et ne crains pas de parler. Mais parle et dis-lui ce qu'il demande avec tant de soucis. Moi, donc, peut-être, antique esprit, t'étonnes-tu du sourire qui m'est échappé, mais je veux que tu t'étonnes plus encore. Celui-ci, qui en haut guide mes yeux, est ce Virgile, à qui tu dois d'avoir chanté avec éclat les hommes et les dieux. Si tu as cru que mon sourire eût une autre cause, tiens-la pour fausse et attribue-le à ce que tu as dit de lui. » Déjà, il s'inclinait pour baiser les pieds de mon maître, mais celui-ci lui dit « Non, frère, ombre tu es, et tu vois une ombre. » Et lui se relevant, « Tu peux juger de l'ardeur de mon amour pour toi, lorsque, oubliant que nous ne sommes que des formes vaines, je traite les ombres comme des corps réels. » Chant 22e. Déjà derrière nous, l'ange était resté, l'ange qui nous avait acheminé vers le 6e cercle, après avoir effacé de mon front une empreinte, et avec ceux qui à désir ont la justice, il nous avait dit « Beati » et le reste des paroles avec « Sitisiunt » sans ajouter rien autre chose. Et moi, plus léger qu'aux autres entrées, si facilement j'allais que sans aucun travail, je suivais en haut les rapides esprits, quand Virgile commença, un amour qu'enflamme la vertu, enflamme toujours un autre amour pourvu qu'au dehors la flamme paraisse. Ainsi, du moment où parmi nous dans les limbes de l'enfer descendit Juvénal, qui me révéla ton affection, la mienne fut la plus vive qu'on puisse ressentir pour une personne qu'on ne vit jamais. De sorte que courts maintenant me paraîtront ces escaliers. Mais dis-moi, et comme ami, pardonne si par excès de confiance trop je lâche le frein, et comme ami, désormais, discours avec moi. Comment put l'avarice trouver place en ton sein, soigneusement rempli, comme tu l'étais de toute sagesse? Ces paroles provoquèrent d'abord en Stas un léger rire, puis il répondit, chacun de tes dires m'est une chère marque d'amour. Véritablement, quelquefois apparaissent des choses qui donnent un faux sujet d'étonnement parce que les choses en sont cachées. Ta demande me montre que tu crois peut-être à cause du cercle où j'étais que je fus avare en l'autre vie. Or, sache que trop fus-je éloigné de l'avarice et cet excès a été puni des milliers de lunaisons. Et n'était que je redressais mon penchant lorsque j'entendis comme en ton courroux tu gourmandes la nature humaine, à quoi ne conduis-tu point, exécrable fin de l'or, la convoitise des mortels? Roulant mon fardeau, je sentirais les joutes douloureuses. Alors je m'aperçus que trop pouvait s'ouvrir les mains pour dépenser, et je me repentis de ce mal comme des autres. Combien ressusciteront la tête rase à cause de l'ignorance qui de ce péché empêche de se repentir vivant et jusqu'au dernier terme? Et sache que la faute directement opposée à une autre sèche avec elle ici sa verdeur. Si donc, pour me purifier, j'ai été parmi ceux qui pleurent l'avarice, par son contraire, ce m'est advenu. Quand tu chantas les armes cruelles, cause de la double tristesse de Jocaste, dit le chantre des bucoliques, par ces chants m'accompagne Clio, il ne paraît pas que fidèle, tu fais encore la foi, sans laquelle point ne suffit de bien faire. S'il est ainsi, quel soleil ou quel flambeau dissipe tellement les ténèbres qu'après tu dirigeas tes voiles à la suite du pêcheur? Et lui dit, toi le premier, tu me conduisis au Parnasse pour me désaltérer dans ses grottes. Toi le premier, après Dieu, tu m'éclairas. Tu as fait comme celui qui va de nuit, projetant derrière soi la lumière, et à lui elle ne sert, mais il instruit ceux qui le suivent. Quand tu as dit « le siècle se renouvelle, la justice revient et le premier âge de l'homme, du ciel descend une race nouvelle, par toi je fus poète, par toi chrétien. » Mais pour que mieux tu discernes ce que je dessine, ma main y apposera les couleurs. Déjà tout le monde était plein de la vraie croyance, semée par les messagers du royaume éternel, et ta parole, que je viens de rappeler, s'accordait avec celle des nouveaux prédicateurs, d'où je pris l'habitude de les visiter. Ensuite, ils me parurent si saints que quand Domitien les persécuta, à leurs pleurs je mêlais mes larmes. Et tant que je fus de là, je les secourus, et leurs mœurs pures me firent mépriser toutes les autres sectes. Et avant qu'en mes verges conduisissent les Grecs au fleuve de Thèbes, je reçus le baptême. Mais par peur, je me cachais d'être chrétien et restais longtemps païen en apparence. Cette tiédeur m'a, plus de 400 ans, retenu dans le quatrième cercle. Toi donc qui as levé le voile qui me cachait le grand bien dont je parle, tandis que nous avons encore à monter beaucoup, dis-moi où est notre chère Thérence, Cécilius, Plaute et Varron, si tu le sais. Dis-moi s'ils sont condamnés et à quelle demeure. Cela, et Perse, et moi, et beaucoup d'autres, répondit mon guide, nous sommes, avec ce grec que les muses allaitèrent plus abondamment qu'aucun autre, dans le premier cercle de l'obscure prison. Bien souvent, nous parlons du mont que ne quittent point celles qui nous ont nourris. Avec nous sont Euripide, Antiphon, Simonide, Agathon et plusieurs autres Grecs qui ceignirent leur front de laurier. Là, de ceux que tu as chantés, se voient Antigone, Déiphile et Argia et Ismène, toujours aussi triste. On y voit celle qui montra Langia. Là est la fille de Tirésias et Tétis et Déidamie avec ses sœurs. Déjà, les deux poètes se taisaient. De nouveau attentif à regarder autour, hors désormais de la montée et des parois. Et déjà quatre des servantes du jour étaient demeurées en arrière, et la cinquième était au timon, le dirigeant en haut vers la zone ardente quand mon guide. Je crois qu'en suivant le contour du mont, nous devons tourner notre droite vers le bord extérieur, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Ainsi, l'accoutumance fut là notre enseignement, et nous prîmes ce chemin avec plus d'assurance par l'assentiment de cette digne âme, et ils allaient devant et moi seul derrière, écoutant leurs discours qui me donnaient l'intelligence de la poésie. Mais tôt rompit le doux discourir un arbre qu'au milieu du sentier nous trouvâmes chargé de pommes à l'odorat suaves et bonnes. Et comme le sapin de rameau en rameau se rétrécit en s'élevant, ainsi cet arbre en descendant, afin je crois que dessus nul ne monte. Du côté où le chemin était fermé, tombait du roc élevé une eau claire qui se répandait d'en haut sur les feuilles. Les deux poètes s'approchèrent de l'arbre et d'au-dedans, à travers le feuillage, une voix cria « De ce fruit vous aurez disette ». Puis elle dit « Plus pensait Marie à ce que les noces furent honorables et complètes qu'à sa bouche qui maintenant pour vous répond. » Et les antiques Romains se contentèrent d'eau pour boisson, et Daniel méprisa le manger et acquit le savoir. Le premier âge fut beau comme l'or, il rendit par la faim les glands savoureux et par la soif fit de chaque ruisseau du nectar. Du miel et des sauterelles furent la nourriture de Baptiste dans le désert. Pour cela glorieux est-il et aussi grand que le déclare l'Évangile.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio.
m'ont conduit à faire de ta grâce l'appui de mon cœur. Et tu m'appelles à nouveau ta voix retentit pour me rappeler qui je suis en toi. Dieu éternel, depuis toujours tu m'as choisi, ton amour n'a jamais faibli. Le chant de ma vie résonnera pour ta gloire. Tu es mon Dieu. Et dès aujourd'hui, Seigneur, me voici. Je chanterai. Sans abandonner, tu soutiens mes pas. Ma vie témoigne de ton action, Dieu souverain. Tu étais, tu es, tu reviens, je le crois. Tu es mon Dieu. Tout ce que je suis, le chant de ma vie résonnera pour ta gloire.
Je chante.